et dans le futur aux problématiques écologiques, c'est quasiment nul, quoi. Mon meilleur ami est professeur de sciences économiques et sociales, Emmanuel Martin, dans le programme jusqu'en fin de terminale, même ceux qui font la spécialité SES, il n'y a pas un moment où ils traitent la question des ressources naturelles et de l'énergie, alors que sans ni l'un ni l'autre, l'économie, elle ne tourne pas. Bref, donc c'est fondamental, je suis d'accord avec vous, et c'est vrai que ça doit être intégré à l'action des chrétiens aux trois niveaux, individuel, collectif et politique. Au niveau individuel, quand même, lorsque... Alors, je ne l'ai pas présenté comme étant quelque chose d'économique, mais c'est intrinsèquement économique lorsque on change son mode de transport, on change son alimentation, ou on n'agit pas, c'est-à-dire qu'on vote avec notre porte-monnaie. Et là, on a un énorme impact, parce que, comme le disait Coluche, si les gens n'achetaient pas de la merde, ils ne s'en vendraient pas. Alors, c'est avec son propre langage, mais... si les gens n'allaient pas chez McDo, McDo ne pourrait pas vendre cette fête. Donc effectivement, le consommateur a un impact, il a une responsabilité, et par des choix de consommation différents et de non-consommation, et je reviens à ma troisième slide, par des choix de non-consommation, de dynamique qui ne rentre pas dans la logique de marché, on a un vrai impact. D'un point de vue collectif, c'est pareil, parmi les questions très concrètes qu'il y a dans le laver les viseurs, c'est quel type de produit vous utilisez pour nettoyer les sols de votre salle paroissiale. Et là aussi, vous soutenez tel acteur ou tel autre. Quand vous faites un repas paroissial, qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? Est-ce qu'il y a le traiteur le moins cher? Ou est-ce qu'il y a des légumes qui viennent de paysans, de chez, enfin, locaux, etc., qui sont éventuellement labellisés et tout ça? Qu'est-ce que vous mangez ensemble quand vous mangez en communauté? Et là, pareil, il y a des soutiens par demande à telle ou telle partie de l'économie. Et dans l'interpellation, alors c'est peut-être moins vrai en France, parce que, et peut-être j'y ai pas pensé, parce qu'en plus, nous, les protestants, on est une minorité, donc. Mais il y a des pays où les représentants religieux, et en particulier les chrétiens, rencontrent les grands acteurs économiques. Pour moi, l'exemple, c'est l'Allemagne. En Allemagne, un grand pays protestant, le président de l'EKD, de l'église évangélique, c'est-à-dire la protestante allemande, chaque année rencontre le patron de Mercedes et le patron de BMW. Donc c'est parce qu'il a accès. Il a accès et ça fait partie, je sais que ça fait partie du plaidoyer et du dialogue entre le président de l'Église et ses chefs d'industrie. Donc là, on a un rôle à jouer également. Ouais, c'est un moment où je me dis, ah, Peugeot c'est une famille protestante, est-ce qu'on ne pourrait pas aller discuter un peu? Bon, j'en sais rien, on verra. Hermès aussi, c'est protestant. Regardez une fois l'hebdomadaire réforme, qui est-ce qui achète le pub, pleine page. C'est des noms protestants, tout ça. Donc il y a peut-être une interpellation pour le moins à apporter, si on n'est pas dans le cynisme, où de toute manière le capitaliste y va pour l'augmentation du capital. Mais le mot n'a pas été prononcé, je suis d'accord avec vous. La question, c'est est-ce que le capitalisme est soluble dans la question écologique? Ben, c'est un sujet de conférence en soi. Voilà. Bref, je vais dans votre sens et je voulais apporter ces deux, trois compléments pour équilibrer. Ensuite, les deux questions suivantes.
Rappelle-moi la première, la deuxième. Vraiment la question de la corruption.
La corruption dans le majeur. Oui, alors, là, j'aurais deux éléments. Le premier, c'est que quand même tous les rapports sur l'immigration disent que plus de 50% des migrations sont dues à des causes environnementales. Après, on est bien d'accord qu'un événement environnemental, il n'est jamais purement environnemental. Si tu es obligé de bouger, c'est aussi parce qu'il y a une défaillance de l'État, par exemple, à se prendre en charge, à protéger les gens. Une des choses clés qu'on a eues dans la suite de l'accord de Paris, c'est dire tout simplement, dans les lieux où il y a des typhons ou des choses comme ça, il n'y a pas, par exemple, de système d'alarme en avance pour prévenir les gens. Pas qu'on se retrouve avec des réfugiés, mais qu'ils puissent aller dans un lieu pour être protégés, etc. Donc c'est jamais un composé chimiquement pur, de pur environnemental. Donc il y a effectivement une question politique. Cela étant dit, la pure corruption, c'est vraiment pas le premier facteur de déplacement. C'est aussi un facteur de déplacement. Pour le moins, de ce que moi j'ai vu, plus de la moitié des déplacements forcés dans le monde aujourd'hui relèvent de questions environnementales de la vie des gens. Donc, alors, pas dire qui est le plus grand coupable, mais... Pardon ?
Quand on dit environnemental large comme ça,
oui.
Ça couvre forcément le malaise économique.
Mais ça couvre tout, cause, si on bouge à cause de la désertification, en soi c'est environnemental, mais en fait la désertification, le problème c'est que je ne peux plus faire pousser mes trucs, et donc en fait j'ai plus mon moyen de subsistance. Donc effectivement, c'est économique, c'est là où c'est con. Mais en même temps, c'est la diversification, c'est pas juste le fait qu'on se demande à chaque fois 20% d'un billet en plus quand il prend pas une démarche administrative ou autre. C'est...
Oui, mais la diversification peut provenir du fait que une mauvaise gestion de la terre, c'est-à-dire qu'on a éliminé les cultures du tiers au profit de... Voilà, c'est un politique. Ça.
Mon propos n'est pas de dire que c'est pas politique, c'est de dire... Voyons, on s'en va. Et sur le verset, c'est vraiment difficile. Parce que ça pose toute la question de, globalement, la théologie de la grâce et des textes bibliques qui ne sont pas dans une théologie de la grâce. Tu prends Matthieu 25, le jugement dernier dans l'évangile selon Matthieu, il n'y a pas un moment où il y a une question de grâce. C'est « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais prisonnier, vous m'avez visité, etc. etc. » C'est du pur théologie des œuvres. Donc il y a, ça touche à une question bien, bien, bien plus large, sachant qu'en plus, il y a toujours cette difficulté d'interprétation qui est que quand nous, on entend terre aujourd'hui, on pense planète, quand dans la Bible, c'est pas ça. Alors, je ne sais pas quel est le terme grec, parce que c'est un texte que je n'ai pas étudié, donc il faudra aller vérifier quel est le terme grec derrière terre. Par exemple, lorsque dans la Genèse, on dit « dominer la terre », Genèse 1-28, dans ce texte-là, que vous avez étudié, l'hébreu derrière, ça veut dire le sec. C'est dominer le sec. Et au début du récit, qu'est-ce que fait Dieu? Il sépare entre les eaux et la terre. Dans ce récit-là, c'est intéressant, dans ce récit-là, l'eau n'est pas ce qui est facteur de vie. L'eau, c'est le chaos primitif. Il faut enlever l'eau pour ouvrir un espace ferme pour qu'il y ait de la vie. D'ailleurs, dans l'histoire de notre planète, je ne veux pas faire du concordisme de l'étage, mais dans l'histoire de notre planète, il y avait un océan primordial, les continents émergent et la vie, il y a aussi la vie dans l'eau, enfin bon bref. Nous ne serions pas là s'il n'y avait pas du sec. Et dans ce texte-là, la domination, c'est que sur le sec. Il ne nous est pas donné domination sur les eaux, et il ne nous est pas donné domination sur les airs. Donc pour moi, chaque fois qu'on prend un bateau, ou qu'on prend l'avion, on est dans des terres sur lesquelles d'ailleurs, en théorie, sont des domaines qui nous échappent. Alors en général, dominer la Terre, je veux dire dominer la planète, Terre avec un grand T, c'est pas ça. Donc dans ce passage-là, il faudrait vérifier et savoir qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on entend par détruire la Terre. Parce que détruire la Terre, c'est une formule que nous spontanément on comprend aujourd'hui en contexte écologique. À l'époque, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette destruction? Qu'est-ce que c'était dans le contexte originel? Je ne sais pas. J'avoue, je ne l'ai pas étudié en fait. Je ne sais pas si toi tu l'as étudié plus profondément ce texte-là. Disons, j'ai un peu une prudence quant à l'entrée en résonance spontanée avec certains textes en disant attention, c'est quoi les mots, c'est quoi le contexte. Et une fois que ce travail-là est fait, alors on peut avoir aussi un travail. On peut avoir un moment créatif, parce que la théologie, c'est créatif. C'est comprendre, quand on essaie d'interpréter. Ce texte n'a pas été écrit avec en vue la crise écologique. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, on fait excéder le sens d'un texte par rapport à un contexte nouveau? Il y a de la créativité là-dedans. Et quand on dit créativité, il y a aussi de la responsabilité. Quelle audace d'essayer de penser à partir de textes bibliques pour un sujet contemporain. Mais il faut assumer cette audace. Et puis dire, bon, bah, écoute, Seigneur, si je me suis trompé, tu me pardonneras, parce que je me suis trompé avec, en intégrité et en volonté de comprendre les choses bien. Mais quelque part, ça nous échappe. Donc, dans les béatitudes, on dit aussi, heureux les doux, ils hériteront la terre. Heureux les doux, point. Aujourd'hui, ce n'est pas les violents qui gagnent. Il y a plein de passages comme ça qui sont effectivement intéressants dans cette perspective. Et malheureusement, la dernière chose que j'interrogeais, c'est quel est le futur? Dieu détruira ce qui détruit. On parle de quel futur dans ce texte-là? Pour le moment, ceux qui détruisent ne sont pas détruits.
et on touche aussi à une question de théodicée, c'est-à-dire la question du Dieu face au mal, sur la question écologique, comme on la connaissait sur la question du mal ou de la pauvreté, de manière générale. Pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas le bras du disciple ?
Et il fait pleuvoir sur tout le monde.
Et il fait pleuvoir sur tout le monde. D'ailleurs, si on voit les petites anecdotes, juste pour un peu voilà, sortir de... Dans l'Apocalypse, il est dit, Dieu fera nouvelle terre et un nouveau ciel, et la mer ne sera plus. Dans le verset. Parce que Israël, c'est pas un peuple de marins. C'est dit, il monte sur un bateau, vous avez eu Jésus dans la tempête, sur le lac de... même pas la mer Méditerranée, ils sont en panique, c'est pas un peuple de marins. Donc ils disent, terre nouvelle, ciel nouveau, mais alors la mer, non, hein, s'il te plaît. Hein. Alors que non, ben non, attends, c'est la planète Dieu, moi la mer, j'en veux encore, dans la nouvelle création, s'il n'y a plus d'océan... Ouais, c'est un peu dommage. Donc c'est rigolo de voir aussi des choses qui sont marquées par le qui est-ce qui a tenu la plume. Enfin bon, moi c'est comme ça que je comprends. Mais il y a on sent cette réalité très humaine du texte aussi telle qu'il a été.
La première question. Jean-Pierre.
Oui, vous pouvez voir. J'aurais une question à poser. Est-ce que finalement la crise écologique n'est quand même pas liée en partie, je pense, à l'accroissement de la démographie? Tant que les hommes n'étaient pas très nombreux sur Terre, les problèmes écologiques ne se posaient pas, comme je trouve. À partir du moment où les hommes deviennent nombreux, prennent la place sur Terre et font disparaître les espèces, les forêts et autres, il y a un réel problème quand même.
Première question. Deuxième.
Bonjour,
plutôt
différentes remarques que je
voulais aller. Pas trop long.
Allez-y.
Non, allez-y.
C'était déjà tout de suite, nous chez les écolos, on dit du tac au tac sur la remarque sur les. Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde sur Terre? Et souvent on entend, il y a des choses qui arrivent de freiner la natalité. On pense toujours à la natalité des autres, et moi je dis souvent pour provoquer, mais pourquoi on n'abattrait pas toutes les personnes qui ont plus de 45 ans et on laisserait la place à des nouvelles générations qui, elles, auraient peut-être une autre approche de leur vie sur Terre et moins privatrice des ressources? Donc voilà, c'est souvent ce que je dis à mes copains écolos quand ils sortent ces choses sur est-ce qu'on n'est pas trop nombreux sur Terre. J'avais différentes remarques sur la vie à crédit. Moi aussi j'ai voyagé au Mali il y a quelques années et c'est là que je me suis rendu compte combien non seulement on consomme beaucoup plus de planète que ce qu'on devrait, mais c'est pas simplement parce qu'on étrit la France ou l'Europe, mais c'est parce qu'on a pris sur les capacités des autres pays, des autres humains, de vivre en fait. J'ai vu au Mali du poulet européen qu'on exportait et qui a tué leur agriculture vivrière pour que nous, notre agriculture, qui vivait en plus subventionnée, fonctionne. Moi aussi, j'ai eu le paludisme, j'ai une petite crise de paludisme qui n'a pas été grave parce que j'étais sous traitement d'Européens. Et ces traitements d'Européens font que les pays exposés au paludisme ont la résistance aux médicaments que eux ont. Donc on a vraiment une prédation qui est bien au-delà de simplement les terres. Ouais. Elle continue. Autre anecdote, ce qui m'a aidé à tenir quand j'avais le paludisme, c'est le Coca-Cola, parce que c'est un produit qu'on trouve à la mondialisation, on trouve partout dans le monde, c'est aseptisé, c'est du sucre, c'est de la caféine, et moi j'ai tenu à coup de Coca-Cola. C'est pour ça qu'en n'étant pas dans une société écologiste, on vit aussi avec la société actuelle, donc on ne peut être dans donner des leçons, mais comment à chaque instant on essaie d'avancer pour quand même faire basculer cette société. Il y a un aspect que j'ai bien aimé que vous abordiez, c'était sur la condition animale. Moi, c'est un des sujets qui me tient à cœur, parce que souvent, quand on aborde au-delà du bien-être animal, vraiment la condition animale, on voit que c'est, je dis souvent, quand il y a de la misère animale, il y a souvent de la misère humaine. Je cite l'exemple de l'agriculture. Les animaux...
Vous pouvez juste nous expliquer la différence conceptuelle que vous faites entre bien-être et condition?
C'est au-delà d'attribuer une amélioration de ce qu'on estime, nous, humains, être confortable pour l'animal. C'est vraiment le penser dans ce qui est ses besoins essentiels, mais sa vie quotidienne, ses interactions, éventuellement une collaboration avec l'homme, c'est pas forcément sa subordination. Et le bien-être, ça peut être un peu quelque chose comme du paternalisme par rapport d'un humain. Et quand vous regardez sur la question de l'agriculture, l'élevage, un animal avec l'élevage industriel, il va être né en Irlande, élevé en France, abattu en Bulgarie pour être consommé dans une pizzeria dans d'un tiers pays. Vous avez des ouvriers qui viennent de Pologne, qui partent pendant un mois de chez eux pour faire Roumanie, Irlande, France et de conditions désastreuses pour eux humainement, et également pour l'émission peut être né, élevé et abattu en France de façon extensive, mais pas extensive complètement, puisque c'est aussi l'importance de végétaliser notre alimentation, parce que si on voulait convertir notre niveau actuel de consommation de viande, ce ne serait pas possible en extensif. Donc ça ne fonctionne qu'avec de l'élevage paysan et beaucoup moins de viande. J'avais une remarque sur les... Vous parliez de gestion politique. Moi, je viens de... Je me suis d'abord engagée dans les milieux associatifs que vous devez connaître des structures d'insertion par l'activité économique. Ici, vous avez Envie, les Jardins d'idées, Inservette. Voilà. Et ensuite, je me suis intéressée plus aux questions écologiques. Et je me suis engagée en écologie politique parce que quand je vois que nos décideurs aux responsabilités ne sont pas à la hauteur pour organiser comme il le devrait les politiques publiques pour aborder ces questions de préparer nos sociétés et les organiser, y compris j'en discutais avec M. Loux, sur l'économie, sur l'agriculture, il y a l'échelon individuel du consommateur, mais il y a également l'organisation de grande échelle de politiques publiques. Je peux prendre mon vélo pour aller travailler, mais s'il n'y a pas une politique publique concertée de pistes cyclables et de l'intermodalité, je vais me heurter à des carrefours qui seront dangereux, donc j'ai abandonné mon vélo. Donc c'est les deux échelons. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose de très important maintenant qui serait à une décision forte politiquement, c'est vraiment la sacralisation de toute terre agricole d'emblée, impossible qu'elle devienne constructible et que plus de terres, y compris constructibles, soient urbanisées. On sait qu'aujourd'hui, il faut construire verticalement et lotissement, le pavillonnaire, chaque commune qui veut développer sa zone industrielle. Ici, on a des grosses zones industrielles qui sont technolandes, on a une grosse zone qui est technolande. Elle n'est pas pleine et vous avez des élus locaux qui veulent ouvrir l'installation d'entreprise sur leur commune, pour leurs habitants. Il faut penser maintenant sur des bassins de vie et arrêter d'être sur « je veux ma grande surface et mon école et mon commerce et mon entreprise pour mon habitant ». Il faut savoir penser en bonne intelligence de territoire. Et il y a aussi quelque chose qui est tabou, mais il va falloir aborder la question des flux financiers. Donc en fait, l'argent existe, on l'a sur nos comptes d'épargne, vous connaissez sans doute l'Ecocrédit, moi j'ai mon épargne sur l'Ecocrédit, on peut faire des choix, on peut demander des comptes à sa banque, il faut que ces placements, le moment où ils dorment sur des comptes, servent à cette transition, à financer l'isolation et l'équipement des logements des plus précaires, ceux qui ne vont pas la faire seuls. On a vraiment des flux financiers utilisés à mettre en place et sans doute taxer le pollueur pour soutenir le vertueux. On peut pas... La taxe, c'est quelque chose de tabou, mais on nous dit que c'est l'écologie punitive. Mais à un moment, sur une route, pour s'organiser, on a bien accepté tous qu'on s'arrête au rouge et on traverse au vert. À un moment, il va bien falloir que certaines choses deviennent illégales et d'autres soient soutenues pour rééquilibrer le rapport de force, y compris capitaliste. Et je finirai sur les marges climat. Moi, quand Nicolas Hulot, il faut se rappeler quand Nicolas Hulot est parti, beaucoup de personnes qui pensaient qu'avec le nouveau gouvernement, enfin, ces enjeux avaient été pris en compte. Et Nicolas Hulot est parti en disant, en fait, on se moque de moi, c'est pas à la hauteur. Moi, on m'a appelé et j'ai aidé les amis à organiser les marches climat sur mon média. Et c'est des gens qui disent, les gens qui viennent à ces marches climat, qui ne sont pas spécialement des écologistes ou des militants, mais ils disent, en fait, on est prêt. Moi, c'est ça que j'entends. Ils ne sont pas venus parce que je les ai appelés à sortir. Mais c'est parce qu'ils cherchaient un lieu et un endroit où se réunir et ils disent, on est prêt, on comprend que c'est grave, mais on ne sait pas comment aller au-delà. Et c'est un peu la bonne nouvelle, je crois, qui se passe, c'est qu'il y a toute une partie de la... Et y compris, ben, je vous pleurerai pour terminer sur l'entreprise, moi je rencontre des entrepreneurs qui viennent me voir, et moi je ne suis même pas élue, et mes sens, ils ont envie que d'autres personnes se prennent le relais, et ils me disent, moi j'ai 40 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai des enfants, et en fait, je sais, par exemple, il y en a un dans le coin, c'est les Bachelet. Ils produisent des bâches pour les camions et pour les vitabris, voilà, les événements. Mmh. Et il me dit, avant, mes bâches, quand elles étaient usagées, il y avait une filière de démantèlement. Cette entreprise a été rachetée par un grand groupe. Je ne sais plus quoi faire de mes bâches. Il dit, je ne vais pas les enfouir. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas les brûler. Donc, vous voyez, il y a un moment, il va... comment on fait pour... la solution existe peut-être ailleurs pour ces bâches. Il y a un élu local, c'est Damien Carême qui en a parlé. Donc il y a des choses qui existent, mais comment on arrive à réorganiser la société pour que ces solutions, ce soit celle-là qui prédomine, et pas le producteur qui va se dire, ben, ma vache, où je l'envoie, parce que aussi, je l'envoie dans les pays auquel on aimait bien externaliser nos pollutions, nos déchets. Mmh. Voilà, c'était toutes les remarques que je voulais amener. Mais je suis venue à cette conférence, j'étais à un enterrement d'une épouse d'un militant écologiste à Valentinier, et c'est la pasteur dans son discours, elle, dans son mot pendant l'enterrement, elle disait, elle a cité quelque chose de la Bible qui était sur les oiseaux qui profitent de la culture de l'homme, en fait. C'est quelque chose comme ça. Puis j'avais interpellé en me disant, l'animal, il a son propre raisonnement, il est pas forcément, il est aussi pour, il se débrouille pour sa survie. C'est elle qui m'a parlé de cette soirée, sinon je n'aurais pas eu l'information. Mmh. Je ne venais pas ici faire tribune, mais j'avais envie d'amener ces compléments, parce que c'était ensuite entre l'individu et la société, comment on franchit les états pour organiser.
Donc en fait, Héloïse a une bonne idée.
Oui. C'était beaucoup de choses, et puis sur l'alimentation, parce que je suis trésorière des jardins d'idées, donc voilà, typiquement des cultures qui peuvent approvisionner, et en plus c'est des emplois de solidarité, donc l'impact économique, social et écologique.
Elisabeth, tu ne viens pas aller chercher le panier. Allez, Martin, je vous donne la parole, en réaction.
D'abord sur la question qui a été posée de la démographie, d'un point de vue purement analytique, c'est évident que la démographie, ça part. La grande équation, vous connaissez peut-être, on appelle ça l'équation d'Ehrlich, du nom de Paul Ehrlich. L'impact écologique est égal à la population, facteur de la richesse, facteur de la technologie. C'est-à-dire, si je veux calculer l'impact écologique des personnes dans cette salle, je prends le nombre de personnes, je prends en moyenne combien vous dépensez d'euros par an, et je multiplie par, si c'est le carbone, l'intensité carbone par euro en France moyenne. Je fais nombre de personnes fois ça, fois intensité carbone, j'ai l'empreinte carbone de notre groupe. Donc c'est clair que le nombre de personnes, et qu'on soit passé de à peu près 1 milliard à 7 milliards, et selon l'ONU, ça s'arrêtera à peu près, on devrait atteindre un plafond autour de 11 milliards, c'est pas anodin. Cela étant dit, je rejoins alors c'est marrant, c'est la première fois que je l'entends au-dessus de 45 ans. C'est bien, c'est un peu le provoque.
Le change.
C'est, pardon ?
Le change à chaque fois.
Quoi, l'âge ? Ou le... Mais c'est bien parce que ça provoque, parce qu'en général, lorsqu'on pose la question de la biographie, on se dit que c'est d'autres qui ne doivent pas exister, c'est pas nous. Alors qu'en fait, c'est ça la grande, pour moi, enfin non, il y a deux grandes réponses. Un, si aujourd'hui il fallait enlever quelque part sur cette planète, pour des raisons écologiques, 1 milliard de personnes, c'est toute l'Europe de l'Ouest et toute l'Amérique du Nord. Si c'est juste la question écologique, vous enlevez nous, on est sous une planète à 5 milliards. Et on pourrait avoir 20 milliards de personnes qui vivent comme l'avenant moyen. Ça, il n'y a pas de difficulté écologique. Donc c'est une question de mode de vie fondamentalement. Je suis très prudent sur la question démographique parce que souvent c'est quand même la grande réponse des pays du Nord qui ne veulent pas remettre en cause leur mode de vie. Et là, on n'entend pas dans les cercles écologiques. Nicolas Sarkozy, il est allé voir le MEDEF cet été. Qu'est-ce qu'il a dit au MEDEF? Ah, mais quand même, la question écologique, c'est un problème de démographie. Patron, il n'allait pas dire que c'est un problème d'économie et de mode de vie. Donc il y a ça. Et alors, il y a des choses bien plus pragmatiques que ça. Si vous dotez de l'équation la possibilité éventuelle de tuer 1 milliard de personnes avec une bombe nucléaire, je pense qu'on peut se mettre d'accord assez rapidement. Ça veut dire quoi? C'est des politiques de natalité. S'il a un impact, là aussi très pragmatiquement, au bout d'au moins 2 générations. Autrement dit, si on est encore gentil, qu'on dit qu'une génération c'est 30 ans, c'est pas avant 60 ans. Dans 60 ans, les 5 degrés ils sont dans les tuyaux, la biodiversité on l'a perdu déjà à 40%, enfin, c'est juste trop tard. Donc il y a une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas, ou peu, ou moi je ne mets pas là-dedans, au-delà d'une première raison que j'ai mentionnée, c'est le fait que même si c'était ça, ça serait par des politiques qui sont trop tardives, et les politiques qui posent des questions terribles, éthiquement, théologiquement. Et même dans les pays qui ont essayé de faire ça, on l'a vu en Chine ou autre, et voilà, parce qu'en Chine, il y a c'est une génération où il y a peu de femmes. C'est les femmes qui sont volées, esclaves sexuelles, maritales, épouses, en Asie du Sud-Est, pour être données comme épouses à des hommes chinois, parce qu'il y a plus de femmes dans certains régions. Il y a une très grande disproportion. Donc on rend des choses absolument dramatiques. C'est sûr que, de la même manière qu'il n'y a pas de croissance économique exponentielle infinie dans un monde fini, il n'y a pas de croissance démographique exponentielle infinie possible dans un monde fini. Selon les projections démographiques de l'ONU, on arrive vers les 11 milliards et ça se stabiliserait là. Si on vit tous de manière plus sobre et que le modèle qui inspire les autres n'est pas le modèle occidental actuel, on peut vivre simplement une sobriété heureuse. Mais, bon, c'est... Voilà, donc j'essaie de tenir les deux, de dire d'un point de vue analytique c'est juste, d'un point de vue pratique et etc. C'est beaucoup plus complexe et c'est d'abord la question du mode de vie sur laquelle il faut travailler. Et puis, pardon.
Après,
il y a quelques mois, il y a l'étude la plus exhaustive qui a jamais été faite, qui a été publiée. Le chiffre aujourd'hui, c'est on estime qu'il y a plus de 80% des terres arables du monde qui ne nourrissent pas des êtres humains. Plus de 80% des terres arables nourrissent des êtres humains indirectement, nourrissent des animaux. Donc la question de la viande et du végétal, au-delà effectivement de la question climatique, c'est une question fondamentale aussi alimentaire tout simplement. Et alors juste pour, il y avait plein de choses dans ce que vous avez dit et je ne vais pas tout reprendre, etc. C'est parfaitement dans l'esprit que j'imagine pour ce temps d'échange, donc c'est très bien, merci. Peut-être juste une chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, quand vous dites on a appris à s'arrêter au rouge et à passer au vert, et il y a des choses qui devraient devenir illégales. C'est là aussi à quoi on verrait le sérieux d'un gouvernement. Quand des députés ont proposé à l'Assemblée nationale qu'on devrait interdire les vols intérieurs lorsqu'il y a une alternative train qui ne dure pas plus de 2h30 de plus, je ne comprends pas que ça ne passe pas. Quand il y a des gens qui disent le changement d'imaginaire, il faut réduire la publicité, et à Grenoble, par exemple, Éric Piolle, ils ont supprimé la publicité dans toute la ville, c'est possible, que ça ne passe pas, je ne comprends pas. Les SUV, quand vous faites attention aux publicités pour des voitures, c'est quasiment plus du tout pour des SUV. Le SUV, c'est un péché écologique. Et comment c'est possible que ce soit légal de vendre un... Enfin, pour moi, il y a une catégorie entière de voitures, elles devraient pas être légales à la vente. C'est genre, sauf la petite bagnole qui n'aimait pas grand-chose, ça devrait pas être possible d'acheter un truc comme ça. Enfin bon, donc là, je suis d'accord, il y a des choses qui pourraient être bien plus agressives à ce jour, et pour partie aussi le politique. Si on avait fait un sondage ou un débat démocratique, on aurait encore de l'esclavage. Donc si on faisait un sondage aujourd'hui, on aurait peut-être encore la peine de mort en France. Donc il y a des fois où le politique doit précéder courageusement la société, et ensuite la société, donc il y a dans la vie, on va dire, dans la dialectique entre ces trois niveaux, individuel, collectif et politique, le politique a un rôle. Mais bon, là comme chrétien, moi je ne vais pas dire si nous. Enfin, voilà. Ça appartient aussi aux politiques et à la vie démocratique.
Quand on prend les grands multinationales, les grands lobbies, l'industrie pharmaceutique, etc., il y a bien intérêts quelque part.
Alors, il y a des intérêts, mais je le mets dans une perspective plus large. Si vous faites une transition écologique sans bâtir un nouveau système économique, et en particulier, moi je suis décroissant, donc si vous organisez la décroissance dans une économie de croissance, c'est une catastrophe. Parce que tel que le système fonctionne actuellement, si vous faites la décroissance dans un système de croissance,
vous provoquez le chômage, vous provoquez la baisse des revenus de l'État, vous ne pouvez plus assurer le système de sécurité sociale français, etc. etc. Donc en fait, quelque part, si au niveau politique et globalement, sociétalement, on ne se met pas dans un travail, un chantier beaucoup plus large de création d'un nouveau système économique, effectivement, faire mettre la clé sous la porte à BMW ou Mercedes en Allemagne,
bah, c'est pas jusque-là. Hein. Non, mais c'est pas mon propos, hein, mais...
Non, mais
je pose la question.
J'entends bien, mais il y a des marques, vous leur enlevez ces produits-là, Airbus, vous leur enlevez de commandes, etc. C'est l'entreprise en tant que telle que vous mettez en danger. Et donc, comment on rentre dans une phase inventive systémique et en même temps on accompagne la transition pour qu'elle soit juste. Ça, c'est aussi un des lieux de réflexion aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut que la transition écologique elle soit juste, et c'est là où on est écologie intégrale aussi du côté catholique. Il faut que les centrales à charbon en France, elles ferment. Il en reste 4. Il faut qu'elles ferment. Mais il ne faut pas que ces gens-là qui travaillent dans les centrales à charbon, ils soient abandonnés à leur sort. Est-ce qu'on a des contrats de transition écologique, ce qui était un projet de Nicolas Hulot? Est-ce qu'on a un État qui propose une formation, qui propose une réorientation? Alors oui, forcément, c'est jamais très drôle ou très facile de se réorienter d'un secteur à l'autre, mais sociétalement, il faut qu'à terme, il n'y ait quasiment plus de camions sur la route. Etc. Donc, dans l'industrie automobile, je suis désolé, mais tous les emplois qu'il y a là-dedans, à terme, il faut que ça ait quasiment disparu. Le problème, c'est pas... il faut distinguer l'emploi de la personne. La personne, il faut qu'elle soit accompagnée. Et là aussi, c'est aller... Moi, je ne peux pas être celui qui a... Enfin, on peut aider une certaine mesure, mais enfin, ça, c'est quand même aussi la responsabilité de l'État. Donc, corruption, si quelqu'un n'a pas fait le changement intellectuel qui consiste à dire qu'il faut changer de modèle économique, en fait, la personne, elle a le sentiment de faire bien. Moi, il y a des fois, je me dis, quand je suis non-consommateur dans une société de croissance, je provoque du chômage. Donc, je me sens en tension avec ça. Parce que je ne suis pas dans le nouveau système que nous appelons de nos voeux et où être sobre, ça participe au bien commun. Pour partie, je participe d'une désespérance sociale. Quand j'achète rien, les carnets de commandes ne se remplissent pas. Quand les carnets de commandes ne se remplissent pas, les entreprises ne peuvent pas payer les salariés. Ou du coup, ils mettent à la rue. Donc il y a un vrai enjeu. Ce n'est pas simple.
C'est pas simple.
Je résiste un peu au mot corruption parce qu'il y aurait corruption s'il y avait enrichissement individuel de la personne aussi. Là. Bon.
C'est pareil dans l'industrie pharmaceutique. Là, en ce moment, on est en train de démanteler l'homéopathie. Ça me pose aussi des questions. Il y a des gens qui croient, qui en démantèlent ça. Même les universités qui l'enseignaient n'enseignent plus. Et je me dis oui.
L'heure tourne.
Ouais, on ne va pas vous prendre en otage, hein. Attention, puis ça fatigue.
Nous rendons l'installe à 23h.
Oui, mais il faut s'arrêter avant. Peut-être prendre la dernière question.
Une question courte, réponse courte. Parce qu'après, on a une ou deux heures pour passer.
Alors, moi, je voulais faire une remarque sur la démographie. L'essentiel de la croissance démographique qui vient de nous, c'est en Afrique.
Oui.
Je prends un exemple que je connais, le Cameroun. Le Cameroun, c'est grand comme la France. Il y a un potentiel vivrier énorme. Il y a 15 millions d'habitants. Donc, comment on va aller expliquer aux Camerounais qu'il faut qu'ils arrêtent de faire des enfants? Ça va être compliqué. Le problème, il n'est pas là. Après, c'est vrai que la transition démographique, c'est nécessaire, hein, aussi en Afrique. Mais le problème, c'est d'abord le mode de vie.
Mais la transition, c'est naturellement avec le niveau de vie. Voilà. Quand les pays du monde, quand les veulent plus monter, les familles, en fait, je ne connais plus exactement
les travaux là-dessus, mais les enfants, j'ai un enfant, quand les niveaux de vie croient, les gens envoient leurs enfants à l'école. Très vite, ça s'équilibre à deux enfants. Oui, madame dit une chose importante, elle dit quand on éduque les filles. Il y a un bouquin qui s'appelle Drawdown, c'est en anglais. Mais qui fait la liste de toutes les solutions face au climat, et notamment toutes les solutions dont on ne pense pas spontanément qu'elles sont climatiques, mais en fait elles ont un impact climatique énorme. Et il disait la scolarisation et l'éducation des femmes, enfin des filles, c'est une des choses les plus efficaces qu'il est possible de faire pour lutter contre le changement climatique. Et c'est très intéressant parce que ça touche en plus à la question du genre et la domination du mâle, de l'homme, de la masse, du masculin sur le féminin, il y a toute une frange de la théologie écologique, qui est une théologie écologique féministe, où on explique que en fait, la domination et l'exploitation aujourd'hui de la terre est une autre forme, mais identique, de la domination patriarcale qu'il y a eu sur la femme. Et d'ailleurs, on ne va pas entrer dans des choses trop provoques, mais la terre que le stock ouvre et dans laquelle ensuite on met la semence, si ce n'est pas quelque chose de fondamentalement masculin, il y a des choses très très fortes là dans les textes bibliques aussi sur ces questions-là. Donc on a même notre rapport homme-femme qui joue et qui est en cause. Alors j'ai un mot de la fin. J'ai un mot de la fin et je termine sur cette phrase-là avant les annonces conclusives. On a entendu la menace, on a entendu les difficultés, on a entendu les risques. J'ai aussi essayé de mettre en avant l'aspect promesse, déjà en termes spirituels. Même en fait, Luther disait si on m'annonçait que Christ revient demain, aujourd'hui je planterais encore un pommier. Parce que c'est la chose juste à faire. Et même si demain tout s'effondre, ce qu'on fait, c'est juste quand même. Moins consommer, consommer juste, avoir un rapport sain à la terre, tout ça vaut en soi. Mais en plus, tout cela apporte des co-bénéfices. On a gagné à la transition écologique. Pensez-y. Sur la démocratie, ça rapproche les décisions du citoyen, parce qu'on les prend localement, en lien, possiblement, on parlait de structuration des choses dans une biorégion, dans un bassin de vie, plutôt que des circonscriptions qui n'ont... Ouais, merci. On rapproche la démocratie des gens. Sur le goût et la saveur, une tomate que j'achète de saison faite par un paysan près de chez moi, bien sûr, elle a une empreinte écologique moindre, mais surtout, je retrouve une tomate qui a du goût. Si je mange les fruits que quand c'est la saison, ben, pour être un peu poétique, l'écologie vous rend le temps des cerises. Vous retrouvez le plaisir qu'il peut y avoir à être le moment où ce fruit est là, est disponible et il est bon. Et après, il n'est plus là. Mais c'est parce qu'il n'est plus là pendant tout un temps que j'ai la joie de l'avoir quand c'est le moment. L'écologie aussi, c'est bon pour la santé. Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas juste pour le climat. C'est quand même un enjeu de santé publique et économique. On a 1 000 milliards d'euros qui partent dans la pollution atmosphérique en Europe. Donc on va mieux vivre. Moi je viens de Strasbourg, en Alsace, on a le pire taux de maladies cardiovasculaires de France parce qu'on mange trop de viande. Ben, manger moins de viande, soigner vos artères, vos cœurs, et mourir moins jeune. Enfin bon, bref, vous prenez la démocratie, la saveur, la santé, le politique, et puis, de manière très chrétienne, un monde plus juste et plus pacifique. Et au final, pour moi, l'écologie, même s'il y a l'aspect risque qu'il faut toujours rappeler, parce qu'il faut avoir le courage de la lucidité, il y a aussi un aspect quelque part où l'écologie, c'est un peu un gâteau au chocolat dans lequel on a envie de mordre. Et au fond, l'écologie, soit elle sera gourmande, soit elle ne sera pas.